J'ai titulé le message d'aujourd'hui « Ne craignez point, ne craignez point ». Je n'ai pas à vous dire que nous allons passer dans une nouvelle année 2019 dans seulement quelques heures. Et nous allons entendre les bons vœux. Les gens prononcent leurs meilleurs vœux pour le nouvel an à tous leurs amis et leurs proches. Et bien souvent, nous entendons ces clichés, beaucoup d'argent, beaucoup de bonheur et surtout la santé. Et si nous allons nous arrêter pour réfléchir un peu et savoir ce qui vraiment se cache derrière tous ces souhaits, nous allons comprendre qu'il y a de même un grand degré d'incertitude et de peur de l'inconnu. Très franchement, nous tous qui sommes situés dans ce côté de l'an 2019, nous ne connaissons pas ce qui nous est réservé à chacun d'entre nous. Certains prononcent même le mot « espérance » qui peut ainsi refléter un certain sentiment positif, mais sans plus. Nous venons de célébrer la naissance de Jésus-Christ et nous avons lu plusieurs fois les récits concernant la naissance de Christ et vous avez peut-être remarqué cette phrase « Ne craignez point » répétée plusieurs fois. Nous trouvons plus de 365 fois cette phrase « Ne craignez point » dans la Bible, c'est-à-dire au moins une fois pour chaque jour. Si vous n'avez pas remarqué, mais c'est le temps de chercher et de trouver combien de fois et souligner dans votre Bible que combien de fois ce mot « ne craignez point », « n'inquiétez de rien » et avec le même sens. La peur est une véritable émotion éprouvée par tous les êtres humains dans ce monde perdu. Mais saviez-vous qu'au commencement, quand Dieu a créé l'homme, l'homme n'avait pas connu cette émotion. Il n'avait peur de rien. Il n'avait pas peur de Dieu, car il n'avait pas connu le péché. Il n'avait pas peur des autres créatures, car tout étant mis sous sa domination. La toute première fois que nous trouvons le mot peur dans la Bible, c'est lorsque Adam et Ève ont péché. Les yeux de l'un et l'autre ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfuirent de ceinture. Genèse 3, 7, le verset 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel de Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit : Où es-tu ? Regardez bien. Adam répond à Dieu : J'ai entendu ta voix dans le jardin. Et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Oui, avant le péché, l'homme ne connaissait pas la peur. Et seulement quand Adam et sa femme Ève ont mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et le mal, ils ont eu peur. Car la séparation entre le Dieu créateur et l'homme pécheur venait de commencer. La parole de Dieu nous dit que la crainte de l'Éternel et le commencement de la science ou la sagesse. Proverbe 1, verset 7. La Bible mentionne deux sortes de peurs. La première est bénéfique et doit être encouragée, tandis que la seconde est destructive et doit être surmontée. La première est la crainte de l'Éternel. Cette crainte n'implique pas forcément la peur, mais plutôt une crainte révérencieuse à Dieu pour sa puissance et sa gloire. Elle implique cependant aussi un respect approprié pour sa fureur et sa colère. Bien sûr que nous parlons de la crainte après la chute de l'homme dans le péché, car avant le péché, l'homme venait de vivre en parfaite harmonie avec son Créateur. Autrement dit, la crainte de l'Éternel est une reconnaissance totale de tout ce qu'il est, qui se développe par la connaissance de Dieu et ses attributs. À vrai dire, dans la vie, nos actions sont guidées soit par l'amour ou par la peur. Nous faisons certaines choses parce que nous aimons les faire. Et nous ne faisons pas certaines choses car nous craignons ce qu'ils peuvent engendrer. Quand nous parlons de la crainte de l'Éternel, cette crainte révérentielle envers notre Dieu vient de notre amour pour lui. Cette crainte nous pousse à obéir à Dieu. La crainte d'un enfant envers son père ou sa mère le pousse à leur obéir. Ce vient premièrement l'amour et non la peur du châtiment pour la désobéissance. Dans la Bible, nous avons de nombreux exemples pour nous par rapport à cette émotion, la peur. Si le Seigneur dit autant de fois dans sa parole, ne crains pas, c'est qu'il sait que nous succombons très vite et très souvent dans ce domaine-ci. Nous lisons dans l'évangile de Marc que Jésus dit au chef de synagogue, ne crains pas, crois seulement. Marc 5, 35. La foi et la crainte ne peuvent pas coexister. La foi et la crainte ne peuvent pas coexister. Telle la lumière avec les ténèbres. Quand l'un vient, l'autre s'en va. La foi ne peut opérer tant qu'il y a de la peur. La foi ne peut opérer tant qu'il y a de peur. Les deux sont opposés l'un à l'autre. Seule la parole de Dieu peut chasser la peur de notre vie. Pour un enfant de Dieu qui marche par la foi jour après jour, pas après pas, avec le Seigneur Jésus-Christ, la nouvelle année ne change pas grand-chose. Mais tant que nous sommes sur cette terre, nous sommes gouvernés par une horloge et un calendrier. C'est pourquoi, comme nous préparons à entrer dans ce nouvel an, je pense que ce serait profitable pour nous, pour notre vie spirituelle, d'avoir une juste perspective par rapport à la peur et comprendre comment elle peut affecter notre marche avec le Seigneur. Tournez avec moi au chapitre 13 du livre de Nombre. Nombre chapitre 13 dans vos Bibles. Nombre chapitre 13. Je lis à partir de le premier verset. L'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chaque tribu de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Moïse les envoya du désert de Paran, d'après ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Et après, nous avons la liste, le nom de ces personnes, le leader de chaque tribu. Nous n'allons pas lire tout cela. On va sauter au verset 16. Tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. Moïse donna à Osée, fils de Noun, le nom de Josué. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit, montez ici par le midi et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est, et le peuple qui l'habite. S'il est fort ou faible, s'il est petit ou en grand nombre, ce que le pays où il habite, où il habite, s'ils sont ouverts ou fortifiés, verset 20, ce qu'est le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il y en a point, ayez bon courage et prenez des fruits du pays. C'était le temps de premier raisin. Ils montèrent et ils explorèrent le pays depuis le désert de Sin jusqu'au Rehob, sur le chemin de Hamath. Ils montèrent par le midi et ils allèrent jusqu'à Hébron, où étaient Ahima, Sheshai et Talmai, au fond d'Anak. Hébron avait été bâti 7 ans avant Tsoan en Égypte. Verset 23. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée de Eshkol, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin qu'ils portèrent à deux au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. On donna à ce lieu le nom de vallée de Eshkol à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent. Il fut retour d'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute assemblée des enfants d'Israël à Kadesh, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute assemblée. Ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. En réalité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays, verset 28, mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. L'Amalécite habite la contrée du Midi. Les Éthiens, les Jébusiens, l'Amorien habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Verset 30. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse et dit, il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tout ce que nous y avons vu sont des hommes d'une haute taille, et nous y avons vu le géant, l'enfant d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Ce que nous avons lu, c'est la parole de Dieu. Nous avons à apprendre à ce que nous pourrons apprendre de ce passage. Dans le passage que nous venons de lire, nous voyons que Dieu ordonne Moïse d'envoyer les 12 hommes, chacun représente sa tribu, pour aller explorer le pays de Canaan, le pays que Dieu a promis à son peuple. Il y a besoin de clarifier que ce n'est pas la volonté de Dieu d'envoyer ces hommes pour explorer le pays. Ce n'est pas la première volonté de Dieu. Regardons ensemble à Deutéronome, chapitre 1. Deutéronome, chapitre 1, à partir de verset 20. Deutéronome, le premier chapitre, à partir de verset 20, nous allons lire jusqu'à 26. Je vous dis, vous êtes arrivés à la montagne d'Amorien que l'Éternel, notre Dieu, nous donne. Vois l'Éternel, ton Dieu, mets le pays devant toi. Monte, prends en possession, comme te l'a dit l'Éternel. Le Dieu de tes pères ne craint point et n'effraie point. Verset 22. Vous vous approchâtes tout de moi et vous dites, envoyons des hommes devant nous pour explorer le pays et pour nous faire un rapport sur le chemin par lequel nous y monterons et sur la ville où nous arriverons. Verset 23. Cet avis me parut bon et je pris 12 hommes parmi vous, un homme par tribu. Ils partirent, traversèrent la montagne, ils arrivèrent jusqu'à la vallée de Eshkol qu'ils explorèrent. Ils prirent dans leurs mains les fruits du pays et nous les présentèrent. Et ils nous firent un rapport et dirent, c'est un bon pays que l'Éternel notre Dieu nous donne, mais vous ne voulûtes point y monter et vous fûtes rebelles à l'ordre de l'Éternel, votre Dieu. Ce que Moïse dit, hein, et au départ, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu l'a dit, vous allez entrer et posséder le pays. Mais le peuple, ils ont donné cette idée que nous allons envoyer des espions pour aller explorer le pays. Oui, nous voyons que Dieu accepte la proposition faite par le peuple. Mais si ce n'était pas le plan original, originel que Dieu avait pour son peuple, si nous avons si peur des gens que nous arrêtons de suivre le Seigneur, nous ne lui faisons pas confiance. Cela montre que nous avons douté de son plan, de son pouvoir et de ses promesses. Ou qu'il serait bon pour le peuple de Dieu de croire et obéir seulement à sa promesse sans résister. Selon la plupart des études, la peur numéro un des gens est de parler en public. Le numéro deux, c'est la peur de la mort. Maintenant, cela signifie qu'en moyenne, une personne qui assiste à un enterrement se sentirait mieux dans le cercueil que de faire des éloges funéraires. Le peuple d'Israël, donc nous trouvons dans le passage que nous venons de lire, était confus au sujet de qui il devrait vraiment craindre. Ils se voyaient comme des sauterelles par rapport aux géants du pays où Dieu les destinait. En effet, le chapitre 13 n'est qu'une partie de l'histoire. L'histoire complète se trouve dans le chapitre 13 et 14. Mais nous n'allons pas lire tout cela maintenant à cause du temps que nous est imparti. Nous avons déjà entendu plusieurs prédications sur ces chapitres qui parlent aussi de murmurer contre Dieu, de la rébellion contre Dieu et du manque du foi, de l'intercession de Moïse, de la colère de Dieu contre ce peuple. Et si ce n'est pas le cas, je vous encourage vivement à lire ces chapitres. Dans Nombre 13, nous lisons à propos de 12 personnes en Israël, dont 10 étaient saisies de crainte, malgré la promesse de Dieu. Ils ne pouvaient pas voir au-delà de leur propre insuffisance et ont donc rejeté ce que Dieu leur avait offert. Les deux autres, au contraire, ont vu le problème que se présentait devant eux, mais savaient qu'il y avait un Dieu au-dessus d'eux. Maintenant, c'est la question à que craignez-vous? C'est ici, dans ce passage que nous avons vu, il avait une crainte pour les adversaires. Vous voyez, la foi authentique n'est pas marquée par un manque de lutte ou d'échec. La vie de foi est souvent marquée par une lutte intense et des échecs fréquents. Mais il y a une lutte précisément parce que la foi sait et se soucie de ce qu'elle est et doit être. La foi n'oublie jamais que Dieu a fait une promesse de Canaan. C'est pourquoi nous voyons Josué encourager les Israélites à ne pas perdre espoir ni à craindre l'adversaire dans le verset 9 de chapitre 14. Canaan était un type de royaume de Dieu. Le désert par lequel passèrent les Israélites sont des difficultés et des épreuves auxquelles le monde actuel doit faire face. La promesse du royaume de Dieu est donnée à chaque croyant. Mais combien sont découragés par les difficultés rencontrées? Un cœur paresseux voit des dangers, des lions et des géants partout, et donc refuse de procéder dans le sentier céleste, comme nous voyons dans le voyage du pèlerin. De nombreux espions y contribuent par le mauvais rapport qu'ils apportèrent sur le pays paradisiaque. Certains prédicateurs admettent que la terre est bonne, que le lait et le miel coulent. Ils vont jusqu'à montrer quelques-uns de ces fruits, mais ils découragent le peuple en affirmant l'impossibilité de vaincre les ennemis. Le péché, disent-ils, ne peut pas être détruit dans cette vie. Il habite toujours en nous. Les Anakim ne peuvent pas être vaincus. C'est possible que les Anakim, les géants que nous trouvons en Genèse, a été détruit dans le déluge de temps de Noé. Ils disent qu'ils l'ont vu des enfants d'Anakim, peut-être. Mais savez-vous que la tête de serpent a été écrasée à la croix? Le verset 33 du chapitre 13 nous lisons ainsi. Et nous y avons vu des géants, enfants de Anak, de race de géants, nous étions à nos yeux et leur comme des sauterelles. Nous ne sommes que des sauterelles contre les Anakim. Est-ce que c'est vrai? Mes chers amis, nous n'oublions jamais le petit David devant le géant Goliath. Nous lisons dans le livre de 1 Samuel, le Philistin regarda et lorsqu'aperçut David, il le méprisa, ne voyant qu'en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Et ici, le peuple, ils disent, nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Ne trouvez-vous pas que ces hommes racontent des bêtises? Nos yeux, d'accord, et peut-être, mais comment à leurs yeux? La perception des choses influence la peur, et la peur influence la perception des choses que nous voyons. Ayons le regard de la foi comme David, mes chers frères et sœurs. Le Seigneur n'a pas besoin d'une armée pour éliminer Goliath. Même pas un autre géant comme lui. Il avait besoin d'un seul homme de foi comme David, qu'il a tué non pas avec cinq pierres, mais avec une seule. N'ayons pas peur de l'ennemi à cause de sa taille. Et l'apôtre Jean, dans son premier épître, dit, « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Regardez avec moi un autre passage qui pourrait nous encourager. 2 Rois, chapitre 6. 2 Rois, chapitre 6. On va lire à partir du verset 15. Le deuxième livre de Rois, chapitre 6, verset 15. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva le beau matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous ?» Verset 16, il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Verset 17, Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée et l'adressa alors cette prière à l'Éternel. « Daigne frapper l'aveuglement cette nation. » Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Vous voyez comment c'est... Dieu il opère les choses. Le serviteur d'Élisée, il n'a pas pu voir l'armée autour d'eux. Une armée de chars, de feu et de chevaux. Et souvent le corps, l'homme charnel, il n'arrive pas à voir ce que l'homme spirituel, il arrive à voir. Et je trouvais ça très beau. Et le serviteur, il était aveugle. Le Seigneur, il a ouvert ses yeux. Et des autres, les ennemis, ils voyaient bien, mais le Seigneur, il a frappé d'aveuglement. Et notre Seigneur, il est merveilleux. C'est à nous de voir comment le Seigneur, il fait les choses. Peu importe la taille de l'ennemi et leur nombre et leur puissance, la peur est suscitée lorsque nous sommes confrontés à tout ce qui nous dépasse. Souvenons-nous toujours que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ne craignons-nous pas des choses que nous submergent? Combien plus devrions-nous craindre Dieu, infiniment plus grand que sa création? Mais souvent, notre crainte, elle est autour de nous. Nous craignons des choses que nous voyons, les choses visibles, des choses créées par Dieu. Mais c'est étonnant que nous ne voyons pas et nous ne craignons pas le Dieu créateur qui contrôle toutes choses. Ça et là, il y a un Josué et un Caleb confiant seuls dans le pouvoir de Dieu, armés de la foi en l'efficacité, infinie de ce sang qui nettoie de toute injustice, se lèvent hardiment et disent « Leur défense leur est retirée et le Seigneur est avec nous. Montons immédiatement et possédons la terre, car nous sommes bien capables de vaincre. » Voici, il y a deux hommes dans tout le pays, Caleb et Josué, qui arrivent à dire des choses pareilles. Par leur foi, ils ont déjà possédé le pays, ce que le Seigneur leur a promis. Mais des autres, ils tremblaient autour d'eux. Nous pouvons tout faire par Christ qui nous fortifie. Il nous purifiera lui-même et nous donnera le repos du péché que sa mort a procuré. Et sa parole a promis. Nous devrions croire en la parole de Dieu. Ne soyez pas découragés. Les fils d'Anak tomberont devant vous si vous les rencontrez au nom du Seigneur des armées. Premièrement, c'est la peur de l'adversaire. Deuxièmement, c'est la peur qui est dans le camp d'Israël même, peur de leur propre camp. En raison d'une grande peur de l'adversaire qui prévalait parmi les Israélites, ils ont eu une attaque de panique et sont devenus une peur pour leur propre peuple et leurs dirigeants. Ils ne pouvaient pas comprendre la façon dont Dieu a opéré pour vaincre l'ennemi. Même si Moïse, Caleb et Josué tentaient de calmer leur peur en leur faisant comprendre la situation. Nous voyons tout à la fin de ce passage que Dieu devait se manifester et mettre fin à toutes les absurdités. Lorsque la situation est physiquement sombre et que l'ennemi semble plus fort et intimidant, il est naturel de commencer à se méfier des dirigeants. En effet, Moïse, Aaron, Caleb et Josué se trouvaient dans une situation très difficile avec ce peuple. Ils ne se sont pas appuyés sur ce qui était physiquement visible, mais ils avaient une confiance totale en Dieu qui était invisible, mais les gens ne le faisaient pas. Par conséquent, les élites se sont retournées contre les dirigeants. Maintenant, nous allons tourner au chapitre 14. On va lire le premier 10 versets de chapitre 14. Nombre 14. On va lire le premier 10 versets. Toute assemblée éleva la voix et poussa des cris. Le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit, « Que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre, « Nommons un chef et retournons en Égypte. » Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Verset 6. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Noun, et Caleb, fils de Jephunné, déchirèrent leurs vêtements. et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront du pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne le craignez point. Verset 10, toute l'assemblée parlait de les lapider. C'est triste, n'est-ce pas? Malgré tout ce que l'Éternel a fait pour ce peuple, malgré tout ce que Moïse a pu faire, Aaron l'a pu faire, mais le peuple, toute assemblée, sans exception, parlait de les lapider. L'histoire de ce dévoile avec Dieu prenant les Israélites à la tâche plus tard dans le chapitre, il veut les anéantir complètement, sauf Moïse, Caleb et Josué qui sont mis leur foi en Dieu. Dans la situation de peur et de crainte, nous sommes capables de dire et faire n'importe quoi. Oui. Quand il y a la panique, quand il y a la crainte, il y a la peur, nous sommes capables de dire et faire n'importe quoi. Et nous savons, nous tous, ce que nous sommes capables de faire. La parole nous dit que le peuple d'Israël pleurait et lamentait toute la nuit. Ça devait être agaçant. Surtout pour le Seigneur qui entend autant de pleurs et autant de lamentations toute la nuit. Comme un enfant capricieux qui pleure toute la nuit. Et tous murmurèrent contre Moïse et Aaron. Et par conséquent, contre Dieu lui-même. Regardez ce qu'ils l'ont dit contre leur Père Céleste, qui ne peut jamais donner à ses enfants une pierre pour du pain, un serpent pour un poisson, ou un scorpion pour un œuf. Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie, misérables pécheurs que nous sommes. Parfois, nous oublions la bonté de Dieu. Dieu, il ne peut pas être autrement. Il ne peut pas donner quelque chose qui ne convient pas. Mais pourtant, nous ne sommes pas différents que ce peuple d'Israël. Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte et se dire l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Verset 34 de chapitre 14. Ils pensaient même à retourner en Égypte, retourner au pays où ils gémissaient comme des esclaves. Rendons compte ce que se passe ici. Oui, dans la crainte et la terreur, il n'y aura même pas de logique et de bon sens. Retourner en Égypte, le pays duquel le Seigneur a fait sortir de ce peuple par sa main puissante. Ils veulent retourner en arrière. Et le Seigneur, il a fait le prodige, de grands prodiges et des miracles pour faire sortir ce peuple. De la nuit où le Seigneur a fait mourir tous les premiers nés d'Égypte, ils veulent retourner à ce pays. Traverseront-ils encore la mer Rouge que le Seigneur a séparée pour les amener où ils se trouvent maintenant? Mais dans la vie, on oublie très vite les choses que le Seigneur nous a fait. Et nous sommes à la fin de cette année 2018. Souvenons-nous ce que le Seigneur a fait pour nous délivrer de nombreux désastres, de nombreuses misères. Et parfois, on a envie de retourner pour l'ancienne vie. Le Seigneur, il a séparé le mer Rouge pour faire sortir ce peuple. Mais ils veulent retourner en Égypte. Où est leur amour pour le Seigneur, leur Dieu? Car il n'y a pas de crainte dans l'amour. Mais l'amour parfait chasse la crainte, car la crainte porte avec elle du tourment. Jean 4, 18. Ou que le Seigneur nous épargne d'une telle attitude envers lui, en oubliant tous ses bienfaits, Le scénario qui est devant nous peut nous servir d'exemple. Dans l'Église de Dieu, quand le corps ne fait pas la volonté de Dieu, quand le dirigeant et les membres ne voient pas des choses ensemble par les yeux de la foi, cela peut engendrer des problèmes. Alors que Dieu se montre et purifie son Église. La peur des uns sur les autres peut entraîner la non-transparence et la méfiance. Par conséquent, nous passons à notre troisième point qui est la crainte de Dieu, le Dieu puissant. Si tout le monde avait la crainte de Dieu et la pratiquait, nous n'aurions pas les mêmes problèmes avec ceux que les Israélites ont dû affronter dans le désert. Nous allons lire le verset 6 à 10 de chapitre 14. Le verset 6 à 10. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephunné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et du miel. Seulement, le verset 9, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront des pâtures, n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. La crainte de tout autre que Dieu a mis les Israélites en dehors du pays du lait et du miel. Parce qu'il avait peur de toute autre chose que l'Éternel lui-même. L'intrépidité de tout et la crainte de Dieu auraient ouvert la porte de la terre promise. Je pense même que Caleb et Josué ont eu leur moment de doute en regardant le mur épais et haut des villes de Canaan et en regardant les hommes beaucoup plus grands et imposants qu'eux-mêmes. Mais ce qui change, qu'il avait une perspective de Dieu qui est plus grande. La véritable foi marche toujours. Il savait que la crainte de Dieu était la clé pour acquérir la sagesse de posséder la terre promise. Caleb et Josué continuent de rappeler au peuple de ne pas se rebeller contre Dieu, mais de la craindre et de ne pas craindre l'adversaire, car Dieu était avec eux. Vous voyez, c'est un péché peut engendrer un autre péché. Et si nous voyons où il avait le manque de foi qui a donné lieu à sa crainte, la peur, ça donne place à la murmure, la rébellion, parler contre Dieu. Craindre Dieu n'était pas une notion négative, mais impliquait la révérence. L'écoute et l'adhésion à sa parole et obéissance à ses ordres, sachant quel pouvoir Dieu avait et ce qu'il était capable de faire avec l'ennemi de son peuple. La crainte est la principale raison pour laquelle les chrétiens obéissent à leur Père Céleste. Cette crainte de Dieu émerge de notre amour et de notre adoration pour lui. C'est pourquoi Salomon a déclaré « La crainte du Seigneur est le début de la sagesse. » Souvent, nous avons une fausse idée de la crainte de Dieu. Quand on dit que nous craignons Dieu, ce n'est pas la peur. Nous ne tremblons pas devant Dieu. Dieu, il est notre Père. Il est notre Père. Et on peut, pour comprendre un enfant, de l'absence de ses parents, il ne va pas faire des choses. Pas seulement, il a peur de châtiment. Et plus que ça, l'amour qu'il a, l'amour et la révérence qu'il a pour ses parents ne permettraient pas à cet enfant de faire certaines choses. Parce que si c'est seulement le châtiment, l'enfant il fera quand les parents ne voient pas cet enfant. Il peut faire certaines choses. Mais l'amour qu'il a pour son père, pour sa mère. Et maintenant, c'est l'application. Nous sommes tous confrontés à une variété de peurs. Cela peut inclure parler en public ou la mort. Vos peurs peuvent impliquer des préoccupations pour vos enfants. Mais si nous pouvons faire une liste des choses que nous craignons pour l'année 2019, on peut avoir une longue liste, ce que nous doutons, nous craignons. Et ça peut être notre travail, le souci dans notre travail. Votre peur peut se concentrer sur ce que les autres pensent de vous. Ça peut être relationnel ou sur ce que vous pensez de vous-même. Vos peurs peuvent augmenter lorsqu'elles sont confrontées à un supérieur ou mises en question par un subordonné. Donc, quel est le problème avec ces peurs? Nous ne pouvons pas être immobilisés par eux. Alors, quel mal présentent-ils? Ce n'est pas comme si nous ne pouvions pas fonctionner, alors pourquoi s'inquiéter pour eux, pour la peur? Le problème de nos peurs n'est pas la peur elle-même, mais ce qu'elle révèle au sujet de notre concept de Dieu, notre conception de Dieu. Si nous avons tellement peur des gens que nous arrêtons de suivre le Seigneur, nous ne lui faisons pas confiance. Mais est-ce que nous avons la peur qui influence notre marche avec notre Seigneur? J'espère que vous avez tous une bonne assurance pour l'année 2019. Apparemment, le prix va s'augmenter. Nous connaissons le problème avec nos compagnies d'assurance. Il y aura toujours une petite astérix quelque part quand c'est la question de paiement, de remboursement. Nous avons une meilleure assurance en Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Et pour terminer, nous allons lire en Épître de Romains, chapitre 8. Romains, chapitre 8. Le verset 37. Romains 8, verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni le domination, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Je pense que ces deux, trois versets, ça couvre tous les peurs qu'on pourrait avoir dans la vie. Ça parle de hauteur, ça parle de profondeur, et un nom pour chacun de ces craintes. Souvent, notre peur, ce n'est pas logique. On appelle ça, c'est la phobie qu'on peut avoir. Ni l'auteur, ni la profondeur, ni la mort, ni la vie. Mais qu'est-ce qu'on peut avoir plus que ça comme peur? Cela montre que nous avons douté de son plan, de sa puissance et de ses promesses. Si nous avons peur, ça montre que nous avons douté de son plan, de sa puissance et de ses promesses. Nous n'avons pas réussi à reconnaître que c'est lui par-dessus tout qui doit être craint, ce qui signifie qu'il doit être respecté, digne de confiance, aimé et obéi. La peur nous empêche de nous repentir, mais la foi nous garde de la peur. En conclusion, c'est à nous de choisir, craignons Dieu, et nous n'aurons plus rien à craindre. Et quelqu'un qui a dit que si quelqu'un craint Dieu, il n'a pas besoin de craindre des autres. Et souvent, nous devrions poser cette question. Pourquoi nous avons crainte? Ou même s'identifier la crainte que nous avons. La crainte que nous avons. Et poser la question, pourquoi nous devrions craindre? Car celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dehors. Et Isaïe 41 10, ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Quelle autre chose que nous aurons besoin quand Dieu est avec nous? Qui peut être contre nous? Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te demandons pardon. Seigneur, car plusieurs fois dans notre vie, Seigneur, nous avons une plus grande révérence pour nos craintes que pour toi. Seigneur, nous avons des peurs. Seigneur, nous reconnaissons que c'est à cause de notre nature pécheresse. Mais nous oublions que nous avons un grand Dieu, que il a déjà gagné la bataille et il est vainqueur sur la croix. Seigneur, aide-nous à rappeler ta bonté, ton amour pour nous, Seigneur, qui nous soutient. Merci pour cette assurance que rien ne peut nous séparer de ton amour. Seigneur, nous prions que tu nous aides à survaincre tous nos peurs, Seigneur, de crainte que nous pourrions avoir dans notre cœur. Seigneur, aide-nous à garder la place pour toi seulement et aucune autre chose. Seigneur, aide-nous à... Seigneur, purifie notre vie, purifie notre cœur, Seigneur, de toutes ces craintes inutiles, pour tous ces soucis qui entourent des choses matérielles, des soucis de ce monde, des soucis de ce temps présent, que, Seigneur, nous avons nos yeux, premièrement, sur toi, la gloire de ton royaume. Aide-nous à ne pas avoir la distraction dans notre vie, de seulement de t'adorer et de te servir. Nous prions tout cela dans le bon nom de notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ, et pour ta seule gloire. Amen.